Maintenant, nous allons passer donc à la parole de Dieu ensemble et regarder ensemble. Donc vous pouvez déjà ouvrir vos Bibles à Luc chapitre 2. Alors non pas le début de Luc 2 qui parle de la naissance de Jésus, mais plutôt la fin de Luc chapitre 2. Donc, dans quelques instants, on lira à partir du verset 41. Mais donc, rassurez-vous, je n'ai pas fait de faute de frappe dans le titre pour aujourd'hui. Il ne manque pas de S à la fin du nom d'Emmanuel. La question n'est pas combien d'Emmanuel y a-t-il. La question, c'est combien d'Emmanuel voulons-nous intégrer dans notre vie ? Combien voulons-nous que Dieu soit Emmanuel pour nous? Puisque donc Matthieu, chapitre 1, verset 22-23, nous dit en citant Ésaïe 7, que toutes ces choses sont arrivées afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Donc, combien voulons-nous que Dieu soit avec nous? Lui, il désire être Emmanuel. Il est venu en tant qu'Emmanuel. Il est venu pour être Emmanuel. Il est venu en tant que Jésus sur la terre. Il a envoyé son esprit pour être Emmanuel, pour être Dieu avec nous. Lui donc, de son côté, il le désire. Et il a tout fait pour pouvoir être Emmanuel, Dieu avec nous. Donc finalement, tout maintenant dépend de notre réponse à ce désir de Dieu et à ce qu'il a fait. Dépend du fait d'accepter ou non, d'inviter ou non le Seigneur à être Emmanuel. La semaine dernière, nous avons vu l'importance de prendre cette décision d'inviter le Seigneur à être Emmanuel dans notre vie. La question, c'est, voulons-nous vraiment qu'il soit Emmanuel? Et jusqu'à quel point voulons-nous qu'il soit Emmanuel? Parce que ce qu'on constate dans la vie, c'est qu'il est possible d'avoir Emmanuel, Dieu avec nous, en théorie, comme titre, comme écriteau au-dessus de notre vie, sans vraiment connaître la réalité de Dieu en tant qu'Emmanuel. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé à Marie et Joseph à un certain moment dans Luc chapitre 2. Donc comme je disais, non pas l'histoire de la naissance de Jésus du début du chapitre, mais une histoire à la fin du chapitre 2 qui a lieu 12 ans plus tard. C'est un peu comme certaines séries télévisées où en 30 secondes, ils annoncent tout d'un coup 12 ans plus tard et on est dans une toute autre partie de la vie. Ici donc, en Luc 2, on passe de la naissance, on doit avoir genre deux versets sur l'enfance de Jésus et puis on arrive à l'âge de 12 ans. Donc Luc chapitre 2, 41 à 51. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Et puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous ? Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Quelque part, le verset 43, ou au moins la deuxième partie du verset 43, devrait nous mettre en garde quant à la facilité de connaître Emmanuel, Dieu avec nous, en tant que théorie, sans vraiment vivre l'expérience tous les jours. Verset 43 nous dit que donc Marie et Joseph, qui avaient reçu au sein de leur famille Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous, ne s'en aperçurent point qu'Emmanuel n'était plus avec eux. Ils croyaient qu'il était là. Ils ont dit, bah, il y a 12 ans, on a reçu Emmanuel. Là, il est venu avec nous à Jérusalem. Donc forcément, il est avec nous, quelque part, dans la foule, avec notre famille ou avec les gens autour de nous. Mais en réalité, il n'y était pas. Il n'était plus avec eux. C'est un peu comme ce qu'on a lu la semaine dernière dans Apocalypse 3, cette mise en garde que le Seigneur donne à l'Église, cet appel que le Seigneur lance à l'Église lorsqu'il dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Dieu bloqué devant la porte. Dans le verset 44, donc, on voit qu'en théorie, Marie et Joseph croyaient que Emmanuel, Dieu avec nous, était là, parmi eux. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de voyage, de chemin, et puis le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Tout d'un coup, ils se sont rendus compte que Emmanuel, Dieu avec nous, n'était plus avec nous. Parfois, ça peut être pareil pour nous en tant que chrétiens et dans l'Église. Nous nous appuyons sur les promesses de Dieu, nous savons qu'il est venu comme Emmanuel, nous savons qu'il a envoyé son esprit pour que nous fassions tous les jours l'expérience de sa présence. Et donc, nous disons qu'il est là. Ben forcément, il est Emmanuel, il est Dieu avec nous, il a promis d'être parmi nous, donc forcément, il doit être là. Et pourtant, parfois, il dit, je suis encore là devant la porte et je frappe. Vous avez oublié quelque chose d'essentiel. Vous faites comme si j'étais là, mais en fait, je ne suis pas. Il devrait être là, il aurait dû être là avec ses parents. Mais quelque part, on ne vit pas ou on ne vit plus la réalité qui se cache derrière ce nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. Non pas Dieu quelque part dans l'histoire il y a 2000 ans, mais Emmanuel, le Dieu vivant, avec nous, aujourd'hui, avec tout ce que cela comporte de dire qui s'appelle Emmanuel, Dieu avec nous. Et souvent, si on l'oublie quelque part en route, c'est parce que nous avons perdu de vue ce que cela implique, ce nom d'Emmanuel, de Dieu avec nous. Nous avons oublié quelles sont les conséquences du fait que notre Seigneur porte ce nom d'Emmanuel et ce que lui désire qu'il a révélé derrière ce nom. Parce que souvent, vous le savez, dans la Bible, les noms ne sont pas gratuits. Les noms avaient un sens. Souvent, le nom collé avec la personne, et d'ailleurs surtout les noms de Dieu. Tous les noms que Dieu révèle dans la Bible sont là pour révéler quelque chose concernant sa nature. Donc si le Dieu éternel, qui comme on a entendu tout à l'heure, est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, se révèle sous le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous, c'est parce qu'il veut se révéler à nous et nous rappeler « Je suis venu pour être avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. » Mais nous oublions parfois les conséquences de cela. Et donc, du coup, nous sommes comme Marie et Joseph sur le chemin. Nous continuons notre chemin, nous continuons nos activités, et nous avons oublié Jésus derrière nous. Nous avons oublié de l'intégrer à ce que nous faisons, et nous vivons les choses tout seuls, alors que lui, peut-être comme les parents, on l'a laissé dans l'édifice, on l'a laissé au temple, on l'a laissé dans le bâtiment de l'église. Mais notre Dieu, le Dieu qui se révèle dans la Bible, n'est pas un Dieu purement religieux. Il n'est pas un Dieu purement cultuel qui passe toute sa vie, toute l'éternité, dans les bâtiments religieux, dans les bâtiments d'église. Il veut être Emmanuel, Dieu avec nous, dans toutes les activités de notre vie. Il aurait dû être Emmanuel avec ses parents sur le chemin entre Jérusalem et Nazareth. Et pourtant, il n'y était pas. Il doit être avec nous à chaque instant. Et nous devons, comme ses parents, être avec lui en tout temps et intégrer peut-être aussi ce que lui, il désire faire dans notre vie. Eux, ils étaient pressés, nous avons des choses à faire. Joseph avait peut-être des commandes à remplir à Nazareth pour la charpente de quelqu'un. Donc, après qu'ils avaient fait ce qu'ils avaient à faire à Jérusalem, hop, on reprend la route et on retourne à Nazareth. Mais Jésus avait autre chose à faire. Et eux, ils sont partis dans leurs affaires en oubliant d'intégrer Jésus, en oubliant de demander à Jésus ce que lui, il avait à faire, et la vie a continué sans Emmanuel. Nous, c'est pareil. Dieu, donc, veut être intégré à chaque instant de notre vie, dans tout ce que nous pouvons faire, dans toutes nos activités. Alors, premièrement, première conséquence d'Emmanuel, de cette révélation de Dieu, c'est que si nous croyons que notre Seigneur est véritablement Emmanuel, qui doit être intégré dans toutes les activités de notre vie, ça nous oblige à faire un certain tri dans nos activités. Si Dieu est Emmanuel, on est obligé de se poser la question, est-ce que Dieu veut vraiment être Emmanuel, Dieu avec moi, lorsque je suis en train de faire telle ou telle chose, lorsque je vais à tel ou tel endroit, lorsque je fais des choses que lui a montrées dans d'autres endroits ne lui plaisent pas. Si Dieu est Emmanuel, Dieu avec moi, je ne peux plus faire certaines choses. C'est pour ça que les apôtres disaient, en tant que chrétien, vous n'êtes plus sous la loi, vous n'avez plus besoin d'appliquer une loi où vous avez la liste de choses. Ça, en tant que chrétien, tu as le droit de le faire, ça en tant que chrétien, tu n'as plus le droit de le faire. C'est quelque chose qui va se faire tout naturellement, sans une loi écrite pour vous, parce que la question va être, est-ce que, oui ou non, je pense qu'Emmanuel peut être là avec moi? Est-ce que vraiment je veux Emmanuel lorsque je suis en train de faire telle ou telle chose? Je vais peut-être modifier ma vie, modifier mes habitudes pour intégrer le fait que je veux qu'en tout temps, le Seigneur puisse être Emmanuel Dieu avec moi, sans gêne, sans problème, sans rien qui risque de le vexer. Sans avoir une loi écrite, mais simplement comme conséquence naturelle de me dire, il est Emmanuel. Je ne veux pas devoir me couper d'Emmanuel, Dieu avec moi, dans cette situation. Donc, pour garder Emmanuel, je laisse tomber la situation. Parce qu'il y a des choses où, finalement, le choix, c'est vraiment entre faire telle chose ou avoir Emmanuel, Dieu avec moi. Et donc, soit je dois décider de dire, bon, ben Seigneur, là, je vais te laisser à l'église pendant que moi, j'aille faire autre chose. Soit on va dire, ben, je veux que tu sois Emmanuel. Donc, je veux vraiment que tu puisses profiter pleinement de cela avec moi, que nous puissions profiter de cette relation que tu as tout fait pour établir. Et donc, je vais modifier ma vie pour que tu puisses être Emmanuel en tout temps avec moi. Après ce tri est fait, le défi, c'est justement de nous rendre compte que le désir de Dieu et ce qu'il a rendu possible par son œuvre, c'est de participer à tout dans notre vie. Il ne veut pas être là à mi-temps. Il ne veut pas être un Dieu à temps partiel où on dit, bon, là, il est Emmanuel et là, il n'est plus Emmanuel. Là, tu peux aller voir quelqu'un d'autre pendant que je fais autre chose et puis tu reviens chez moi. Il veut qu'on l'intègre dans tout. Dans 1 Corinthiens 10, l'apôtre Paul établissait un principe de vie en montrant jusqu'où Dieu veut être Emmanuel dans notre vie. Dieu ne veut pas limiter ce statut d'Emmanuel qu'au dimanche matin ou samedi soir lorsqu'on est à l'église. Il ne veut pas limiter sa présence d'Emmanuel qu'au moment où nous prions, où nous chantons des louanges, où nous lisons la parole ou écoutons une prédication. Il veut s'intégrer dans tout. Et donc Paul dit, même jusqu'à dire, soit donc que vous mangiez. Dieu veut être Emmanuel à tel point que lorsqu'on s'assoit à table, on puisse dire, ben, Emmanuel est là avec moi. Dieu est là avec moi dans mon repas. Soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour que le Seigneur soit Emmanuel. Donc, jusqu'aux choses les plus basiques de manger et de boire, il veut être là. Colossiens 3, 17, « Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. » Il veut s'intégrer partout, en tout temps, en toute chose. C'est quoi, j'ai déjà partagé avec vous l'histoire de la femme de l'évangéliste Billy Graham qui, semble-t-il, avait mis un petit panneau au-dessus de son évier de cuisine où c'était écrit « Culte rendu ici 3 fois par jour ». Parce qu'elle voulait se rappeler que dans des choses aussi bêtes que de faire la vaisselle, elle pouvait intégrer le Seigneur, le faire pour le Seigneur, louer le Seigneur par sa manière de faire la louange, de faire la vaisselle. Ça devenait un culte à Dieu parce que si Dieu est Emmanuel, même devant son évier de cuisine, Dieu était là avec elle. Et le défi après, c'était d'intégrer Dieu dans tous les aspects de notre vie. C'est important d'intégrer sa présence parce que c'est comme ça qu'il veut être, c'est son désir. Il s'est révélé à nous comme Emmanuel. Mais la Bible nous dit également que plus nous arrivons à intégrer dans notre vie le fait qu'il est Emmanuel, plus nous allons découvrir le bonheur de le connaître et de ressentir sa présence. J'espère ce matin que nous croyons tous que le psalmiste dit la vérité et a écrit la vérité et que ce qui se trouve dans la Bible est la vérité. Psaume 16, verset 11 nous dit « Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. » Je ne sais pas si ce matin vous avez envie de connaître le bonheur. Peut-être vous préférez être triste, je ne sais pas. Le Seigneur nous dit, il y a d'abondantes joies dans la présence d'Emmanuel. Mais si on laisse Emmanuel derrière nous, et nous on continue à tracer notre chemin, comment va-t-on connaître cette joie abondante que produit la présence du Seigneur? Ce serait triste si l'Église devenait juste comme la station de service où on vient au culte pour faire le plein. Je veux connaître cette abondante joie de la présence du Seigneur parce que bon, comme ça, je vais pouvoir tenir la semaine et puis j'arrive au culte le dimanche suivant. Je suis dans le rouge et ont besoin de refaire le plein de cette abondante joie de la présence du Seigneur. Ce n'est pas ça son but pour nous et son objectif pour nous. Lui, ce qu'il veut, c'est qu'en tout ce que nous fassions, nous puissions apprendre à connaître cette abondante joie qui est liée à sa présence. Dieu désire être Emmanuel et désire se révéler à nous. Il désire nous conseiller, il désire nous parler. Pour cela, il a besoin du temps avec nous. Il a besoin qu'on passe du temps avec lui. Il a besoin d'être intégré dans notre vie. Sinon, comment voulons-nous que Dieu se révèle à nous? Comment voulons-nous que Dieu nous parle? On a entendu tout à l'heure ce psaume où Dieu se compare avec les idoles en nous rappelant que lui, il est un Dieu qui parle. Que les idoles, c'est que du métal ou du bois, sans la possibilité de se déplacer, sans la possibilité de se bouger, sans la possibilité de parler. Alors que Paul aussi rappelle dans Corinthiens, vous êtes venus vers un Dieu qui est vivant et qui parle. Mais si on ne passe pas de temps avec lui, on ne va jamais l'entendre. Lui, il peut parler tout ce qu'il veut, mais si on n'est pas là, on ne pourra pas l'entendre. Il désire donc qu'on puisse lui intégrer dans notre vie pour pouvoir nous parler, pour pouvoir se révéler à nous. Un temps où nous devenons de plus en plus conscients de sa présence, où nous sommes à la recherche de sa présence. Si vraiment il y a, comme dit la Bible, d'abondantes joies dans la présence du Seigneur, ça devrait être motivant pour dire, ah ben moi, j'ai envie d'être dans sa présence. J'ai envie de connaître sa présence parce que je veux découvrir ces abondantes joies que sa présence m'apporte. Le problème, c'est que souvent nous disons que nous n'avons pas de temps à lui consacrer. Parce que nous voulons l'intégrer dans toute chose, mais parfois nous avons besoin de lui donner le temps de se révéler, le temps de nous parler. Mais nous vivons dans un monde qui exige beaucoup de notre temps et de notre attention. Parfois, ce sont des choses inévitable, des choses où on ne peut pas faire autrement que de faire ce que nous avons à faire. Éphésiens 6, versets 5 à 8, par exemple, dit « Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les donc avec empressement, comme servants le Seigneur et non pas des hommes. Sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Donc, si on veut servir le Seigneur, il nous dit, ben, vous ne pouvez pas lésiner sur votre temps et vos efforts pour votre patron. Mais on peut quand même l'intégrer avec nous à tout instant, même en faisant autre chose, chercher la présence de Dieu et dire, Seigneur, je suis là, je travaille pour toi. Par mon travail, je te rends un culte à cet instant-là et je t'intègre dans mon travail. Mais bon, même s'il y a pas mal de choses où on n'a pas le choix, où même le Seigneur ne nous laisse pas le choix, ben, ce n'est pas toujours le cas. Il est facile de dire « Ah ben, j'ai pas le temps », alors qu'en réalité, nous l'avons. Le temps qu'on peut passer dans la musique, devant la télé, j'ose le dire, devant les réseaux sociaux, devant Internet. Alors, toutes ces choses en soi sont valables. Toutes ces choses peuvent même être de bien selon l'usage qu'on en fait. Mais toutes choses, si c'est ces choses-là, si c'est le sport, si c'est le temps pour moi, quoi que ce soit, peut aussi impliquer un danger. La question principale, c'est est-ce que j'intègre la présence de Dieu dans ces activités-là? Est-ce que lorsque je suis obligé de faire ces choses, je les fais en cherchant la présence d'Emmanuel, Dieu avec moi lorsque je suis en train de le faire? Ou est-ce que ces choses m'empêchent de chercher sa présence et d'écouter sa voix? Est-ce que ces choses remplacent la présence de Dieu? On a lu que le psalmiste nous dit « Il y a d'abondantes joies dans ta présence ». Je pense, ce matin, si je posais la question, on dirait tous « Ah oui, amen, j'y crois ». Je crois que la Bible dit vrai, donc je crois qu'il y a d'abondantes joies dans la présence du Seigneur. Si on analyse notre vie, est-ce que notre vie dit la même chose que ce que peut dire notre voix si on se pose la question ce matin? Est-ce que notre vie dit que nous sommes convaincus que dans la présence du Seigneur, il y a d'abondantes joies? Ou est-ce que, si on a analysé ma vie, quelqu'un d'autre arriverait à la conclusion que je pense que les abondantes joies se trouvent plutôt auprès de tel artiste, ou de tel journaliste, ou de tel écrivain, ou de tel comédien, ou de tel youtubeur, ou de tel influenceur, parce que c'est avec eux que je passe mon temps plus qu'avec le Seigneur. C'est eux que je cherche plus que le Seigneur. C'est eux que j'écoute plus que je n'écoute la voix du Seigneur. En tant que chrétiens, nous avons besoin de se rendre compte de ce que veut dire ce nom Emmanuel et permettre à notre Seigneur d'être Emmanuel, Dieu avec nous en tout temps. Et principe radical, cela implique également qu'il soit Emmanuel en semaine. C'est beaucoup demandé, n'est-ce pas? Qu'il soit Emmanuel le dimanche matin, soit, c'est normal, c'est son temps. Mais il veut être Emmanuel en tout temps. Le dimanche, il s'appelle Emmanuel. Mais le lundi, il s'appelle tout autant Emmanuel. Et le mardi, et le mercredi, et le jeudi, et le vendredi, et le samedi. Lui, il ne change pas. Vous voyez, parfois, notre théologie est pleine de petits éléments un peu partout, et on oublie de les lier ensemble. On peut dire d'un côté, oui, Dieu, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Oui, notre Seigneur, il est Emmanuel. Le dimanche matin, bien évidemment. Mais si notre Dieu ne change pas, s'il ne change ni hier, ni aujourd'hui, ni éternellement, ça veut dire qu'il ne change pas entre le dimanche et le lundi. Lui, il reste le même. Il reste toujours Emmanuel, chaque jour. Il veut tous les jours être Emmanuel, Dieu avec nous, au cœur de notre vie. Je ne sais pas si vous avez déjà connu ça. L'autre jour, je devais téléphoner à un certain service dont j'avais besoin et j'avais regardé les horaires d'ouverture, donc je téléphone. Et puis je tombe sur un répondeur me demandant d'appeler tel jour entre telle heure et telle heure, qui était exactement le moment où j'étais en train de téléphoner, et pourtant ils n'y étaient pas. Je me dis que parfois Dieu doit avoir la même impression avec nous. Je devrais pouvoir être Emmanuel avec vous le lundi après-midi. Et pourtant, quand j'appelle, tout ce que j'entends, c'est « Désolé, je ne suis pas là pour le moment, mais rappelez-moi plus tard, et ben, surtout le dimanche matin, et je serai là. » Si Dieu avait dit dans Apocalypse, « Toi, je me tiens à la porte et je frappe », c'est parce qu'il veut pénétrer dans notre vie, il veut être là en tout temps. Le problème, c'est que nous, parfois, on a une application peut-être un petit peu trop littérale de ce que Jésus dit dans Luc 2, dans le 40, verset 46 à 49, quand il répondait à ses parents en disant « Mais pourquoi me cherchiez-vous ? Vous aurez dû savoir où me trouver, dans la maison de mon père, en train de m'occuper des affaires de mon père. » Parce que où est-ce qu'on va trouver le Seigneur ? C'est dans l'édifice religieux, bien sûr, n'est-ce pas? On a peut-être, nous, une application un peu mal ajustée à la réalité que Jésus, Emmanuel, a introduite lorsqu'il est venu sur la terre. À son époque et avant son époque, effectivement, la maison de Dieu, le lieu où Dieu habitait, c'était effectivement le temple de Jérusalem. Si on voulait rencontrer Dieu, on devait se déplacer au temple. C'est pour ça que même dans les psaumes, on voit le psalmiste souvent qui dit « Oh, si seulement je pouvais vivre dans le temple, dans ta maison. Qu'est-ce qu'ils ont de la chance, ceux qui vivent dans ton temple, ces prêtres, ces lévites ?» Même, j'aimerais être un de ces oiseaux qui ait construit son nid dans le temple pour être près de toi. On le voit par exemple dans Jean chapitre 2, lorsque Jésus est en train de chasser les vendeurs de pigeons et qu'il dit « Ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévore. » Mais avec la venue de Jésus, et puis après sa mort, avec la venue du Saint-Esprit, il y a eu un changement. Changement symbolisé d'ailleurs par le fait qu'au moment de la mort de Jésus, Dieu a déchiré le rideau du temple qui séparait la présence de Dieu dans le lieu très saint de ce bâtiment de Jérusalem et son peuple. À partir de là, il est sorti et lorsqu'il a donné son esprit, il y a eu cette transformation où maintenant nous ne venons pas à la maison de Dieu, nous ne venons pas au temple, mais nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes sa maison, nous sommes le lieu de son habitation, de sa résidence. Donc lorsque nous sommes ensemble à l'église, nous sommes dans le temple parce que nous formons le temple de Dieu. Mais puisque 1 Corinthiens 6, 19 nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en nous, ça veut dire qu'également, lorsque je me déplace, je n'ai pas quitté le temple. Tout à l'heure, lorsque nous nous quittons, lorsque nous rentrons chez nous, nous ne quitterons pas le temple. Nous ne quitterons pas la maison de Dieu. La maison de Dieu, le temple du Saint-Esprit partira avec nous. Parce que si nous sommes chrétiens, si l'Esprit de Dieu vit en nous, on ne peut plus quitter le temple puisque le temple, c'est notre corps. Et donc, où qu'on soit, se trouve le temple du Seigneur, la présence du Seigneur. Pour ça que je disais tout à l'heure, le défi pour nous en tant que chrétiens, c'est d'intégrer le Seigneur dans toutes nos activités, puisque quand on est allé là le dimanche, on est dans le temple en train de rendre un culte à Dieu. Lorsqu'on est dans les transports, on est dans le temple. Sauf si vous laissez votre corps à l'arrêt de bus et vous avez trouvé le moyen d'entrer dans le bus sans votre corps, alors vous êtes toujours dans le temple. Lorsque vous vous rendez au bureau, vous êtes dans le temple. Le défi, c'est de s'en rendre compte et de dire « je suis dans le temple, donc même là, je rends un culte à Dieu ». Et comme la femme de Billy Graham, lorsque vous êtes devant votre évier de la cuisine, vous êtes au temple et vous pouvez rendre un culte au Seigneur parce que nous sommes le temple de Dieu. Donc certes, il y a dans la Bible des promesses particulières, disons qu'il y a un aspect particulier de notre relation avec Dieu lorsque nous sommes tous réunis ensemble. Si c'est ici, si c'est à l'auberge de jeunesse, si c'est ailleurs. Matthieu 18, verset 20, « Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » 1 Corinthiens 14, « Lorsque vous vous assemblez, que tout se fasse pour l'édification. » Il y a cet aspect important où nous avons besoin. Dieu nous a fait de telle manière et a créé sa relation avec nous de telle manière qu'on a besoin de venir ensemble dans sa présence pour avoir la plénitude de ce qu'il veut nous dire et de ce qu'il veut faire en nous. D'où Hébreux 10, 25 qui dit « N'abandonnons pas notre assemblée, n'abandonnons pas le fait de nous réunir ensemble. » Mais en même temps, la Bible est très claire, Dieu ne vit pas dans un bâtiment. Si vous cherchez sur Google ou ailleurs, vous ne trouverez pas que l'adresse de Dieu, c'est 22 rue du Laboratoire, ni n'importe quel autre bâtiment religieux d'ailleurs. Dieu ne vit pas ici. Dieu nous dit qu'il vit en nous, parce qu'il est Emmanuel. Et pourtant, ça nous arrive de vivre comme si Dieu vivait à 22 rue du Laboratoire. Et de se dire, bah, quand je suis là, bah, je suis dans la présence de Dieu. Et puis, il y a ma vie à côté. Je pars. Finalement, ce n'est pas, comme on a vu la semaine dernière, Dieu qui est bloqué dehors devant la porte de l'église. C'est plutôt que nous, on part et on laisse Dieu ici dans la salle et puis on ferme la porte à clé et on s'en va à la maison. Dieu ne vit pas avec un bâtiment. Il vit avec moi en tout temps. Parfois, on dit, « Ah ben non, là, il ne faut pas toucher à tel domaine, là, c'est ma vie privée. Il ne faut pas que l'Église ou que Dieu commence à me dire que je dois agir de telle ou telle manière dans telle ou telle partie de ma vie, parce que ça, c'est ma vie privée. Ben, » si on veut être chrétien, si on veut appartenir à Emmanuel, Dieu avec nous, je suis désolé, mais il n'y a pas de vie privée. Puisque tout ce qu'on fait dans notre corps, nous sommes en train de faire dans le temple de Dieu qui habite en nous. Donc c'est devenu son affaire. Le choix, c'est soit on ne veut pas d'Emmanuel, soit si on veut être sauvé par Emmanuel, Dieu avec nous, on doit accepter que la condition, c'est que notre vie est devenue la sienne. son lieu d'habitation. Tout ce qu'on fait avec notre corps devient donc son affaire à lui. Il veut être intégré pleinement. Il y est, nous dit la Bible. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit même aux Corinthiens, mais comment est-ce que vous pouvez aller coucher avec des prostituées, sachant que du coup vous êtes en train d'attacher le temple de Dieu à cette prostituée? Il dit, je suis si vous le voulez ou non. Mais est-ce que vraiment c'est ce que vous pensez que je veux pour votre vie et que vous fassiez avec moi? Donc, en toute chose, il dit, je suis là avec vous. Mais ce qu'il veut, c'est qu'on s'en rend compte. C'est qu'on reconnaît qui il est, qu'on reconnaît qu'il est Emmanuel et qu'on l'intègre dans notre vie en tant qu'Emmanuel. Ce qu'il veut, c'est qu'on lui rende un culte, non pas uniquement le dimanche matin dans le bâtiment, mais qu'on lui rende un culte tous les jours. Donc qu'on lui rende un culte tous les dimanches ou tous les samedis soirs lorsque nous sommes ici ensemble, mais également qu'on lui rende un culte à la maison, lorsqu'on est en train de se mettre à table, lorsqu'on est en train de boire, lorsqu'on est en train de faire la vaisselle, lorsqu'on est en train de faire toute autre chose. Il veut qu'on lui rende un culte dans son temple, lorsque nous sommes au travail. Il veut qu'on l'intègre et qu'on fasse toutes choses avec lui, par lui et pour lui. Il désire qu'on cherche sa présence et qu'on en profite à chaque instant. Lui, il désire nous révéler qu'il y a d'abondantes joies dans sa présence. Il dit même, je suis mort pour que tu puisses connaître ces abondantes joies qui sont liées à ma présence. J'ai tout fait pour rendre cela possible. Ce serait dommage, n'est-ce pas, de ne pas en profiter. Alors, j'en ai moins entendu parler au Luxembourg, mais je sais qu'en Angleterre, souvent, les grands magasins se mettent en mode combat dans les jours après Noël avec des effectifs supplémentaires qui ont comme travail de réceptionner tous les cadeaux non désirés que les gens rendent après les fêtes. Parce que, oh, ben, je ne voulais pas ça. Lorsque tu offres quelque chose à quelqu'un, tu espères au moins que la personne aura la décence de ne rien dire et de discrètement retourner au magasin sans te dire que, franchement, ils ne voulaient pas du tout ce que tu leur as offert. Parce que, si on est honnête, je pense que ça nous rend triste. Si on a choisi un cadeau pour faire plaisir à quelqu'un, on lui donne et puis la personne va... Ah, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Mais le Seigneur, il dit, moi, j'ai donné ma vie pour t'offrir ce cadeau. Moi, j'ai donné ma vie, je me suis sacrifié pour devenir Emmanuel pour toi. Pour que tu puisses connaître cette abondante joie de ma présence avec toi à tout instant. Et si après nous, on lui dit, bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Je suis prêt à te laisser le dimanche matin, c'est déjà pas mal, non? Mais lui, ce qu'il désire, c'est être avec nous en tout temps. Être intégré à tous les aspects de notre vie, à tous les moments de notre vie. Dieu ne veut pas jouer le rôle d'une vieille tante à qui on rend visite par devoir une fois par semaine, le dimanche matin. Ce que Dieu veut, c'est une relation intime avec nous, où il est intégré tout le temps dans notre vie, où tout le temps on a ce désir de partager notre vie avec lui. Parce que lui, il le désire tellement qu'il a donné son sang pour le rendre possible. Il veut vivre avec nous. Il veut vivre en nous. Il veut être au cœur de notre vie tout le temps. La Bible parle souvent de la foi en termes d'avoir faim et d'avoir soif. Elle parle aussi de la foi souvent en tant que relation par rapport à l'idée d'une religion. Alors ce matin, est-ce que nous avons faim et soif d'Emmanuel? Est-ce que nous avons faim et soif que Dieu soit avec nous? Lui, il le désire. Lui, il a tout fait pour rendre cela possible. Maintenant, la question est seulement à quel point voulons-nous qu'il soit Emmanuel? Combien d'Emmanuel voulons-nous? Un Emmanuel à temps partiel? Un Emmanuel à deux heures par semaine? Ou est-ce que nous voulons vraiment que le Dieu qui ne change jamais soit toujours Emmanuel avec nous?